au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Au fil des pages. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une figure majeure du 19e siècle, à un homme qui dirigea la France pendant plus de 20 ans, véritable exploit au cours d'un siècle si agité, un homme qui fut à la fois notre premier et notre plus jeune président de la République, mais un homme qui fut aussi notre dernier souverain. Je veux bien sûr parler de Napoléon III. Alors, Éric Anceau, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié il y a déjà quelques mois une remarquable biographie de Napoléon III. Vous avez d'ailleurs obtenu le prix Drouin de lui de l'Académie des sciences morales et politiques, ainsi que le prix du mémorial de la ville d'Ajaccio. Je précise à nos auditeurs que vous êtes docteur en histoire, agrégé et que vous enseignez à la Sorbonne ainsi qu'à l'IEP de Paris. Vous avez déjà publié de nombreux travaux sur le Second Empire. Je citerai entre autres le dictionnaire des députés du Second Empire. Donc 2008 est l'année du bicentenaire de la naissance de Napoléon III. De nombreuses biographies ont paru à cette occasion, d'autres existaient déjà. Alors tout d'abord, expliquez-nous pourquoi une nouvelle biographie de Napoléon III.
Eh bien, je m'intéressais, comme vous l'avez souligné, depuis de longues dates à la période du Second Empire, aussi bien dans ses aspects politiques, sociaux, économiques, et au détour de tous ces aspects, la figure de Napoléon III surgissait. Bien. Par ailleurs, j'avais constaté que les biographies existantes ne correspondaient pas parfaitement à mon attente, soit que la tendance de ces biographies se servait de Napoléon III pour faire le portrait en fait de l'époque, et soit qu'elles étaient tendancieuses, hagiographiques pour certaines, ou au contraire à charge pour d'autres. Et j'ai voulu rétablir par le biais de cette biographie un certain nombre de vérités. En la centrant sur l'homme, il y avait, me semble-t-il, matière à cela, en me plongeant dans les archives.
D'ailleurs, oui, on perçoit très bien à travers l'exploitation de vos sources votre volonté, si j'ose dire, de rester scotché sur votre personnage. Et vous n'hésitez pas d'ailleurs à laisser beaucoup la parole à Napoléon III lui-même. Était-ce important pour vous ?
C'était capital. Il s'agissait de montrer que Napoléon III présentait un caractère d'unité depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort. Il a défendu les mêmes idées. On a prétendu que c'était un personnage brouillon, qui faisait preuve d'un grand pragmatisme, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Mais il y a une forme de continuité dans sa politique, aussi bien économique, sociale qu'institutionnelle. Et c'est ce que j'ai voulu montrer en me replongeant dans ses écrits de jeunesse, en étudiant ses discours, ses prises de parole et en les confrontant à ses actes.
Alors, votre ouvrage se compose de quatre époques. La première, de 1808 à 1848, concerne les chemins du pouvoir. La seconde évoque les années de présidence de 1848 à 1852. La troisième, les premières années de l'Empire de 1853 à 1861. Et la dernière, le déclin et la fin de 1862 à 1873. Alors, nous n'avons malheureusement pas le temps de tout évoquer. Concentrons-nous sur certains points. Et entre autres, dans les pages que vous consacrez aux années de conquête du pouvoir présidentiel, vous insistez sur la grande habileté politique de celui qui naît alors à l'époque que Louis-Napoléon Bonaparte. Comment se traduit cette habileté politique ?
Eh bien écoutez, il va profiter de la véritable vague de fond qui va le porter au pouvoir et qui s'incarne en fait dans le culte de Napoléon, le napoléonisme, hein, Napoléon très populaire dans les campagnes. Cette popularité était véhiculée par toute une imagerie, bien évidemment par les grognards qui étaient rentrés dans leur foyer après les campagnes de l'Empire. Et le passage au suffrage universel en mars 1848, l'avènement de la Deuxième République, va pour lui être une chance formidable, parce que bien évidemment, ces paysans ne connaissaient pas les candidats qu'on leur proposait, sauf l'un d'entre eux, Bonaparte. D'ailleurs, on prétend que dans certaines campagnes, ils confondaient le neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui nous occupe aujourd'hui, et l'oncle, dont ils pensaient qu'il n'était pas mort, en dépit de ce qu'on prétendait. Et toute son habileté va être, en quelque sorte, d'organiser une propagande avec des proches, des familiers, pour lui permettre d'obtenir cette élection. Avant de devenir président de la République, il avait été plébiscité par le biais d'élections législatives.
En fait, on voit très bien dans cette partie qu'une des grandes forces, et ça sera vrai tout au long de la vie de Napoléon III, oui, c'est sa capacité à utiliser et à profiter des hommes et des circonstances. C'est un réel trait de caractère de Napoléon III.
Bien évidemment, c'est quelqu'un qui était très tourné vers l'autre et vers les gens, qui avait vraiment une bonne psychologie des gens. Il les laissait parler, alors on l'accusait d'être un taiseux, de, lorsqu'il y avait une discussion, de ne pas se mêler à la discussion. En fait, il écoutait beaucoup. Donc il a su s'entourer de gens, repérer des gens dont il s'est fait des fidèles. Mais ceci allait plus loin et nous ramène à ce que j'évoquais tout à l'heure, les élections. C'est quelqu'un qui a toujours apporté une très très grande importance à l'opinion publique. Il n'y avait pas de sondage à l'époque, mais il s'entourait de collaborateurs. Une fois qu'il a été élu président, puis empereur, il demandait à ses préfets, aux procureurs généraux, des rapports très réguliers, beaucoup plus qu'il n'y en avait sous les régimes précédents, pour être en prise directe avec la population.
Oui, et c'est lui qui fut un des initiateurs, enfin même le premier à utiliser les fameux voyages politiques. Vous leur accordez une large place.
Bien évidemment, avant les présidents de la Troisième République comme Sadi Carnot, avant bien évidemment le général de Gaulle sous la Cinquième République, le président Louis-Napoléon Bonaparte a entrepris de grands voyages en province, visitant une cinquantaine de départements. Avec les moyens de l'époque, on en était au balbutiement du chemin de fer, donc souvent c'était des voyages en voiture ou bien encore... par la voie d'eau. Donc on allait très lentement, mais il ne s'économisait pas, il entreprenait malgré tout ses voyages.
Louis-Napoléon Bonaparte rétablit l'Empire, devient Napoléon III. Ça faisait des années qu'il se préparait à incarner ce rôle. Il avait réfléchi, vous le montrez très bien, étudié, réfléchi le pouvoir dont il rêvait quelque part. Quel est-il finalement et quel est le système qu'il va mettre en place?
Alors, en 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, en fait, veut être l'héritier de son oncle. C'est perceptible dans ses écrits. Il est le véritable penseur, en fait, je crois, du bonapartisme. Lorsqu'on parle bonapartisme, il faut songer à Louis-Napoléon Bonaparte. Et son idée, c'est bien évidemment de réconcilier l'histoire de France avec elle-même, de prendre le meilleur des régimes précédents. Il l'a écrit à de multiples reprises dans ses écrits. Donc, il y a du bon, disait-il, dans l'Ancien Régime. Et bien évidemment, il se considère, et avant tout, comme l'héritier de 1789. Donc, si vous voulez, c'est cette volonté de conciliation, presque de syncrétisme, qu'il va vouloir mettre en œuvre. De manière fondamentale, et on va retrouver ça dans le préambule de la Constitution du 14 janvier 1852, la garantie des libertés fondamentales. Mais à côté de cela, il estimait que sous la Deuxième République, il y avait une forme d'anarchie. Il justifiait par ce biais-là le coup d'État qu'il avait perpétré le 2 décembre 1851. Et il y a chez lui, au premier chef, dans les premières années de son régime, une volonté de rétablissement de l'ordre. Mais il disait, lorsque l'ordre sera rétabli et consolidé en France, viendra le temps de couronner mon édifice par la liberté. Ce qui résume, je crois, le mieux Louis-Napoléon Bonaparte, quelque chose d'ailleurs qu'avait perçu Victor Hugo, qui deviendra son grand adversaire, c'est la volonté de concilier autour des principes de 1789 ces deux notions de l'ordre et de la liberté pour clore enfin la période de la Révolution, puisque le 19e siècle était une période très très agitée et Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, aspirait à être celui qui allait clore cette période d'instabilité.
Mais donc, à partir de 1861, à peu près, il s'engage donc vers la libéralisation du régime. Il commence petit à petit et ça va terminer par l'Empire libéral. Mais justement, est-ce pas là une erreur de Napoléon III?
Ah, c'est difficile à dire.
C'était difficile à expliquer.
Alors, c'est là où il a fait preuve de pragmatisme, en ce sens qu'il a procédé vraiment au fil du temps, en étant en phase avec l'opinion, en observant cette opinion, et en se rendant compte que les réformes qu'il accordait étaient perçues insuffisantes par cette opinion. Donc, il a été amené à en accorder toujours plus. La libéralisation se fait en quatre phases, 1860, 1867, 1869 et vous l'avez dit à l'instant, 1870, avènement de l'Empire libéral. Par contre, dans son esprit, j'ai retrouvé plusieurs lettres qu'il confirme, plusieurs conversations qu'il a eues, il ne s'est agi à aucun moment de rétablir le parlementarisme tel qu'il avait pu exister sous la Restauration et la monarchie de Juillet.
Parce que lui-même gardait un très mauvais souvenir du parlementarisme. Oui.
Bien évidemment. Donc son régime restera d'une certaine façon anti-parlementaire, mais il accorde un certain nombre de libertés supplémentaires. Par exemple, le fait que désormais, les membres du gouvernement seront choisis au sein du Parlement. Le fait également que ces membres du gouvernement sont en fait sous l'égide d'une double responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de leurs collègues députés, qui peuvent à la limite les renverser, c'est ce qui se produira pour le gouvernement Émile Ollivier le 9 août 1870, mais également responsabilité constante vis-à-vis de lui. Par rapport à un régime parlementaire strict, comme on l'entend, comme il existe à la même époque en Angleterre, il y a deux différences fondamentales. Le souverain, enfin le chef de l'État, reste responsable. C'est lui qui a des comptes à rendre à la nation. Il y a un lien direct qui s'établit avec la nation, par-delà les parlementaires qui, eux, ne sont représentatifs que d'une petite fraction de la souveraineté nationale. Ça, c'est absolument fondamental dans la conception de Napoléon III. Et puis la deuxième chose, c'est que le chef de l'État a toujours la faculté de consulter le peuple sur des questions fondamentales par le biais du plébiscite. Alors bien évidemment pour les parlementaires, pour ceux qui étaient attachés au parlementarisme, c'était véritablement une hérésie. D'ailleurs, les plus parlementaristes de son gouvernement du 2 janvier, au moment où il entamera le processus plébiscitaire de mai 1870, démissionneront de son gouvernement. Donc vous voyez, il y a des restrictions en fait à ce libéralisme et à cette marche vers le parlementarisme.
Éric Anceau, il est temps maintenant de faire une courte pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Merci.
Au Roi Soleil, elle donna 8 enfants. Canal Academy vous propose de dresser le portrait de Madame de Montespan dans l'émission Un jour dans l'histoire, en compagnie de Mathieu Davina du Centre de recherche du Château de Versailles. Une émission en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Je reçois Éric Anceau, auteur d'une biographie de Napoléon III. Nous venons de nous intéresser à la conception du pouvoir de Napoléon III. Penchons-nous maintenant sur les grandes réalisations du Second Empire. On reconnaît souvent ce qu'on doit à Napoléon Ier et moins souvent ce qu'on doit à Napoléon III. Et pourtant, son œuvre est-elle aussi considérable? Quelles sont les principales réalisations de Napoléon III et dans quel domaine?
Ah, je serais tenté de dire dans tous les domaines, mais bien évidemment, je mettrai quelques limites pour ne pas paraître être un hagiographe du personnage. Dans le domaine social, il est quand même celui qui, en 1864, a accordé aux ouvriers le droit de se coaliser, c'est-à-dire de faire grève, droit qui leur avait été formellement interdit par la Révolution française et le décret-loi Le Chapelier de 1791. Mais il ne s'est pas contenté de cela pour les ouvriers, il a entrepris un programme de construction de logements ouvriers. D'ailleurs, il n'hésitait pas lui-même à tracer le dessin, le plan de ces maisons ouvrières, et son œuvre a été couronnée lors de l'exposition universelle de 1867. Il a également créé des caisses de retraite, des caisses d'assurance maladie pour les ouvriers, et il essayait de faire appliquer des lois qui avaient été votées antérieurement à lui pour empêcher le travail des enfants dans les manufactures. Donc voilà, si vous voulez, quelques aspects, seulement quelques aspects de l'œuvre sociale.
Alors, l'œuvre économique.
L'œuvre économique qui, bien évidemment, est absolument gigantesque, avec le soutien qui va être apporté au milieu bancaire. Bon, nous sommes en période de crise.
Oui.
Il est de coutume de taper sur les banques aujourd'hui. Les grandes banques de dépôt que nous connaissons sont l'œuvre de Napoléon III, ont été créées sous le Second Empire. Pensons par exemple à la Société Générale, 1863, ou encore au Crédit Lyonnais, 1864, pour drainer l'épargne des particuliers et la réorienter dans un second temps vers les forces vives de l'économie, vers l'industrie. L'industrie se développe véritablement sous le Second Empire. Les chemins de fer. Lorsque Napoléon III accède au pouvoir, vous avez à peine 2000 km de voies ferrées en France, alors que la Belgique, petit pays s'il en est, a plus de voies ferrées que nous, et l'Allemagne et la Grande-Bretagne beaucoup plus. Lorsqu'il quitte le pouvoir, la France a rattrapé tous ses voisins, à l'exception de la Grande-Bretagne, et a 20 000 km de voies ferrées. Les grandes lignes transatlantiques. le traité de libre-échange de janvier 1860 avec l'Angleterre. Il est le premier à vouloir véritablement abaisser les droits de douane, qui était une doctrine un peu intangible de l'économie française jusque-là. Et puis, pour nous limiter un troisième secteur, la diplomatie peut-être.
Ah, mais on peut en faire encore, on peut en faire quatre. J'allais vous lancer sur l'urbanisme. Commençons par la diplomatie.
Très bien. Alors, la diplomatie, puisqu'il a voulu repenser le système international, on le présente souvent comme un fauteur de guerre. Et c'est vrai qu'en accédant au pouvoir, il avait promis, pour se démarquer et éviter d'effrayer ses concitoyens, se démarquer de Napoléon Ier en disant « l'Empire, c'est la paix ». Et parallèlement, c'est vrai qu'il a beaucoup fait la guerre. Vous avez eu la guerre de Crimée, une expédition en Syrie, la guerre au Mexique, et puis, bien évidemment, l'épreuve finale, la guerre contre la Prusse. Mais malgré tout, dès les années 1860, il va essayer de penser un système international, une organisation qui permettrait de pacifier les relations entre les peuples. Il a écrit aux souverains d'Europe qui ont fait la sourde oreille, et donc il faudra attendre les lendemains de la Première Guerre mondiale pour que ce projet aboutisse enfin avec la Société des Nations. Mais il en est le premier concepteur.
C'était vraiment quelqu'un d'ouvert sur les autres.
Tout à fait, tout à fait. Sur le champ de bataille de Solferino également, il a vu cette boucherie de la bataille et il a été immédiatement après l'un des promoteurs de la Croix-Rouge. Il a aidé Henri Dunant, le Suisse Henri Dunant, à fonder la Croix-Rouge.
Nous allons quitter la diplomatie pour en revenir en effet à l'urbanisme, parce que Paris ne serait pas le même Paris sans Napoléon III.
Bien sûr, à deux niveaux. D'une part, il a eu l'intelligence des hommes de s'entourer dans ce domaine spécifique de l'urbanisme de très grands préfets. À Paris, bien évidemment, le préfet Haussmann, il l'a nommé en 1853 pour rénover la ville, mais dans quasiment toutes les villes de province. Je ne citerai que l'exemple de Lyon, avec l'homologue peut-être moins connu d'Haussmann, qui s'appelle le préfet Vaïs. Et avec tous ces hommes, en fait, il va bâtir un projet urbanistique absolument grandiose, qu'il avait envisagé, là encore, dès ses années de jeunesse. Car rappelons qu'il a été exilé à Londres, qu'il a passé une partie de son exil aussi aux États-Unis. Il a été, à ma connaissance, le seul chef d'État européen du 19e siècle à traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Et il a vu ce que pouvait être une ville moderne. Le Paris médiéval, qui avait aussi son charme, le Paris romantique, encensé par tous les écrivains qu'on peut connaître, de Théophile Gautier à Victor Hugo, avait son charme, certes, mais il s'agissait de mettre Paris au goût du jour. Et c'est Napoléon III qui a entrepris cette œuvre. Avec un petit bémol tout de même qu'il faut signaler, bien évidemment, aérer la ville, c'est une volonté hygiéniste, faire disparaître la maladie. C'est aussi amener dans la ville et dans ce ventre de Paris, les halles qu'il a fait construire, les produits qui viendraient du monde entier. Mais c'est aussi construire de grands boulevards et de grandes avenues qui permettront, en cas d'émeute, de vaincre plus facilement les barricades. Et j'ai retrouvé dans des lettres écrites par Napoléon III à Haussmann cette volonté sous-jacente de maintien de l'ordre. C'est très clair.
Oui, alors à travers ces différents points, on voit bien vraiment à quel point Napoléon III était un homme d'État novateur. Il aurait même eu envie, vous le soulignez à diverses reprises, d'aller plus loin dans ses réformes. Et il a été parfois bloqué, je dirais, ou retenu par un entourage qui était moins avancé que lui, je dirais.
C'est ce que j'ai cherché à montrer dans ce livre, qu'en fait, Napoléon III est présenté comme un souverain autocrate et qu'en fait, dès l'origine de son régime, dès le coup d'État du 2 décembre 1851, il a les mains liées, un peu comme Napoléon, un peu comme ce qu'avait montré Jean Tullard pour Napoléon. Alors je l'ai montré peut-être plus modestement, mais j'ai voulu montrer que les grands notables, il en avait besoin pour gouverner, que ces notables n'étaient pas de tradition bonapartiste et ont cherché par divers biais à entraver son action. Je n'en donnerai qu'un exemple, le Conseil d'État. Le Conseil d'État est un organisme fondamental pour les Bonapartes, Napoléon Ier qui l'a créé, Napoléon III, puisque c'est l'organisme, l'institution au sein de l'État qui met en forme les idées du souverain pour en faire des projets de loi. Et bien évidemment, quand Napoléon III arrivait avec une loi sociale, le Conseil d'État, qui était peuplé d'orléanistes, de grands bourgeois héritiers de la monarchie de Juillet, enterrait les projets de loi en disant l'État n'aura pas les moyens en fait de les faire passer, de les faire voter, et donc il faut en différer l'application. Le Conseil d'État a été un obstacle au grand projet de Napoléon III dans le domaine social et dans le domaine économique.
Alors on voit donc que l'œuvre de Napoléon III est très riche, et malgré tout cela, il reste mal aimé dans la mémoire des Français. Et là aussi, c'est une des volontés de votre ouvrage, c'est de replacer, je dirais, Napoléon III dans la mémoire nationale, à sa juste place. Expliquez-nous ça un petit peu.
Tout à fait. J'avais été profondément choqué. D'une part, j'ai enseigné dans le secondaire avant de devenir enseignant à l'université, de la faible place qui lui était accordée dans les programmes. Aussi bien en quatrième qu'en seconde, le Second Empire est rejeté en fin d'année et les enseignants n'ont souvent pas le temps d'aborder la période pourtant fort riche. Par ailleurs, il y a quelques années, Antenne 2, France 2 et Europe 1 avaient organisé une grande émission pour essayer d'identifier les 100 plus grands Français de tous les temps. Et dans la présélection qui avait été proposée aux Français, le nom de Napoléon III, ô horreur, ne figurait même pas. Il est vrai que lorsqu'on questionne les Français dans la rue, ils n'ont gardé que très peu de souvenirs de Napoléon III. Donc, il s'agissait de rétablir un certain nombre de choses. Et tout ceci date en fait de la Troisième République, le régime qui a succédé à Napoléon III, puisque bien évidemment, il a servi de bouc émissaire. La Troisième République est née, il faut l'accréditer de cela, dans des conditions extrêmement difficiles, puisque Napoléon III lui a légué la guerre, d'une certaine façon même la défaite, mais il lui a légué aussi un pays extrêmement riche, qui a pu se relever de cette guerre, qui a pu payer l'indemnité de guerre extrêmement lourde que lui avait imposée l'Allemagne. Et bien évidemment, la Troisième République a noirci très fortement le tableau, l'image qu'elle nous a laissée de Napoléon III. Napoléon III incarnant la fête impériale, donc les plaisirs, les séries de Compiègne, les bals, l'argent qu'on dépense. Il est l'homme du coup d'État, bien évidemment, le péché originel. Et il est également l'homme de Sedan, donc de la débâcle. Hein, dernier ouvrage de la saga d'Émile Zola qu'il consacre au Second Empire.
Mais d'ailleurs, vous montrez ce souverain là, à Sedan, lors de la bataille de Sedan, qui finalement chercherait une mort au combat, qui serait la seule issue romantique à sa vie. Et finalement, là, il ne la trouve pas. Vous croyez que ça aurait changé quelque chose ? La légende se serait emparée du personnage, parce que ça aussi, c'est quelque chose dont souffre Napoléon III, c'est qu'aucune légende ne s'est emparée du personnage.
Bien évidemment, il y avait toujours cette image de Napoléon qui pour lui était fondamentale, et ça explique pourquoi, alors qu'il était très malade, il était atteint de la maladie de la pierre depuis plusieurs années, il a tenu à monter lui-même à cheval pour commander son armée lors de la campagne contre la Prusse. Hein, campagne, vous l'avez rappelé à l'instant, qui lui a été fatale. Et bien évidemment, encerclé à Sedan, il aurait pu deux jours avant fuir, comme le lui conseillaient ses généraux. Il n'a pas voulu, très noblement, il a voulu rester à la tête de son armée. Et sur le champ de bataille de Sedan, 1er septembre 1870, il a cherché la mort. Est-ce que oui ou non, s'il était mort sur le champ de bataille, les choses auraient changé ? Je ne sais pas, pour être honnête, on n'est pas là pour faire de l'histoire fiction. Il est certain, en tout cas, que l'exil, contrairement à l'exil qu'a connu Napoléon, ne l'a pas grandi. Il n'a pas trouvé en Angleterre, il est mort en Angleterre en janvier 1873, le Saint-Hélène qu'avait connu Napoléon.
Alors qu'il a essayé, de se justifier, d'expliquer son attitude, et quelque part la mayonnaise n'a pas pris.
Non, ça n'est pas passé. Alors, il ne répondait pas à ce qu'il estimait être de basses attaques. J'ai retrouvé des lettres qui montrent qu'il ne veut pas s'abaisser à répondre aux critiques les plus basses dont il était victime. En revanche, sur le fond, par exemple le déclenchement de la guerre de 1870, qu'on lui imputait uniquement, il répondait. Il a écrit avec son secrétaire de l'époque, qui s'appelle De La Chapelle, un certain nombre d'ouvrages pour se justifier, en disant qu'il était devenu un monarque constitutionnel et libéral en 1870, et que si son gouvernement, le gouvernement Olivier, si le Parlement avait voulu s'opposer à la guerre, ils auraient pu. Donc il acceptait une part de responsabilité, mais il tenait à la partager avec le gouvernement et avec le Parlement.
Oui, puisque là aussi, on le voit très bien, il a été poussé à la guerre par l'opinion publique. Lui qui a toujours été à l'écoute de son opinion publique, elle l'a perdu en quelque sorte.
Tout à fait. Des travaux autres que le mien ont montré, parce que là aussi, la Troisième République avait dit oui, en fait, le peuple français ne voulait pas la guerre. Elle a été décidée par les bonapartistes autoritaires et par l'empereur en son palais. Des travaux, je pense ici à Stéphane Audouin-Rousseau, ont montré que, en fait, une grande partie de l'opinion était favorable. Alors, dans les villes, on était favorable à la guerre. Dans les villes, vous aviez beaucoup de républicains, mais de républicains très patriotes, très remontés contre l'Allemagne, en fait, depuis de nombreuses années, qui étaient favorables à la guerre. Et dans les campagnes, les choses étaient complexes. On va dire une grande partie des campagnes étaient pacifistes, mais une partie aussi, en particulier aux frontières, parce que la menace allemande monde était très proche, était également favorable à la guerre. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'on les a pendant très longtemps présentées. Napoléon III, très à l'écoute de l'opinion, lorsqu'il se rendait de son palais de Saint-Cloud au palais des Tuileries pour les conseils des ministres au début juillet 70, au moment où s'est décidée la guerre, voyait les manifestations populaires qui réclamaient la guerre. Donc ça, ça l'a indéniablement influencé. Il recevait les rapports hebdomadaires de ses préfets et des procureurs généraux qui montraient qu'en de nombreuses provinces, dans les villes de province, on réclamait aussi la guerre. Donc ça a été un élément important de son choix d'entrer en guerre à la mi-juillet 1870.
Alors finalement, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de ce personnage de Napoléon III ?
Que c'est un personnage qui mérite mieux que le sort qu'on lui a réservé dans notre histoire et qu'en fait, qu'il mérite de figurer au panthéon des grands souverains, des grands chefs d'État du XIXe siècle et de l'histoire contemporaine.
Dans votre conclusion, vous dites que les Français ont tendance soit à l'autoflagellation, soit à l'autoproclamation. Vous voudriez qu'on reste entre les deux avec Napoléon III ?
Tout à fait. Je n'ai pas cherché à occulter les parts sombres de sa biographie. Encore une fois, le coup d'État qui se justifie...
Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on peut en dire deux mots, puisqu'il pèsera sur toute la vie de Napoléon III.
Ah, indéniablement, l'impératrice Eugénie racontait qu'il ne se passait pas une journée de sa vie sans qu'il y pensât. Donc effectivement, ce coup d'État est très présent, c'est sa véritable tunique de Nessus. Alors, il a cherché à le justifier en disant que, alors qu'il était extrêmement populaire et que s'il en avait eu la faculté constitutionnelle, le peuple français l'aurait réélu une deuxième fois à la présidence de la République. Or, la Constitution de 1848 ne permettait qu'un mandat au président. Ça, c'est un fait avéré, je pense. Il a justifié en prétendant que la majorité monarchiste de l'Assemblée législative voulait faire un coup d'État contre lui et qu'il n'a fait en fait que la devancer en faisant lui-même un coup d'État contre l'Assemblée. Alors là, les choses sont peut-être un tout petit peu plus discutables. Je verse dans mon ouvrage les pièces à charge et à décharge au dossier. Ce dont on peut décharger Napoléon III, en revanche, c'est de ne pas avoir fait tirer sur la foule,
voilà,
puisque, effectivement, on peut l'imputer à son ministre de l'Intérieur, Morny. Ça n'est pas lui qui a fait tirer sur la foule. On le lui reprochera. Bon, il n'empêche qu'il avait prêté serment de respecter la Constitution en tant que président et qu'il a bafoué cette Constitution. Ça, c'est indéniable.
Nous terminons sur cette image de Napoléon III. Merci beaucoup, Éric Anceau. Espérons que, grâce à vous, Napoléon III retrouve sa juste place dans la mémoire nationale. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Napoléon III, paru aux éditions Talendier. Le livre peut paraître un peu épais, mais rassurez-vous, il se lit comme un roman. Je voudrais aussi, avant de terminer, juste qu'on dise quelques mots de votre bibliographie, parce qu'elle est extrêmement riche, ainsi que des notes qui figurent dans votre ouvrage. Et tout est là, je dirais, sur le Second Empire et sur Napoléon III. Vous pouvez remercier votre éditeur, quelque part, j'ai envie de dire.
Ah, tout à fait. C'était une clause importante du contrat que j'ai signé avec lui. Je voulais donner au lectorat, éclairer, en fait, toutes les pièces justificatives pour montrer, en fait, ce que j'avançais, apporter les preuves. Et l'éditeur m'a suivi, ce qui, de nos jours, est rare.
Oui, alors, une part très grande, et vous avez été beaucoup, dans aux archives, et nous ne l'avons pas dit, vous avez exploité beaucoup le fonds Napoléon, mais aussi d'autres fonds privés, le fonds Olivier, vous avez...
Oui, j'y travaille encore d'ailleurs beaucoup, puisque je prépare une histoire de l'Empire libéral maintenant, et puis le fonds de la plupart des ministres de Napoléon III, qui sont versés aux archives nationales, je pense par exemple au fonds Rouher ou au fonds Persigny. Donc ce sont des fonds que je connais bien. Et puis vous avez, et bien évidemment, tous ces personnages, ou la plupart d'entre eux, qui ont écrit leurs mémoires. Donc ça aussi, ce sont des sources absolument extraordinaires. Et j'invite le public à se plonger dedans.
Moi aussi. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Canal Académie. Au revoir.